Bonsoir à tous. Vous m'excuserez ma voix légèrement cassée ce soir. Mon fils était en tournoi en fin de semaine passée et j'ai la voix un peu maganée, comme on dit. Fait que si jamais je perds la voix, sachez que mes collègues seront en mesure de m'aider sur cet élément-là. Pour bien commencer, je vais demander la réflexion par M. Claude Paulin. Claude?
Donc, selon nos croyances personnelles, nous nous engageons à rechercher les connaissances, la compréhension et la sagesse qui nous permettront, au cours de cette séance, de prendre les meilleures décisions afin de préserver et d'améliorer les avantages dont jouissent les citoyennes et citoyens de notre municipalité.
Merci, Claude. Donc, l'ordre du jour est envoyé dans les temps. Tout est conforme et on a le quorum. Sur l'ordre du jour, il n'y a pas de modification. Ça va me prendre un proposeur, un appuyeur. Rénal et Michel, merci. On serait donc rendu à la première période de questions. C'est une période de questions de 15 minutes normalement. On vous demande de vous nommer pour ceux qui ne seraient pas habitués pour les fins du procès-verbal. Et vous posez vos questions par la suite, on prend le temps d'y répondre. Et après ça, on va pouvoir défiler. Il y a une dernière période de questions à la toute fin. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va, parfait. Cette première période de questions-là aurait été courte et facile. Procès-verbal, l'adoption du procès-verbal du 10 novembre 2025. Ça va prendre un proposeur, un appuyeur, Cheryl et Michel. Merci. Le prochain 6.1, c'est le suivi de la rencontre du 26 novembre 2025 de la MRC, qui a été quand même une longue séance de la MRC, ma première séance à titre de maire. Nomination des comités, je vous dirai que je siège présentement comme maire sur le comité de l'aménagement du schéma au niveau de la MRC. Je siège aussi sur tout ce qui est la couverture incendie. Au niveau des comités, parce que je suis aussi sur le CA de la régie avec Claude. Fait que je trouvais que c'était un bon dossier. Je suis sur le comité de la sécurité publique. Mon objectif principal était de pouvoir certainement parler des interventions policières et de la présence policière sur le territoire. On en entend parler souvent par les citoyens. Je suis aussi sur le comité de l'énergie énergie renouvelable. Fait que ce sont les comités sur lesquels je siège à la MRC. La MRC a adopté son budget, donc on parle d'un budget qui a une hausse globale de 5,7%, mais une hausse en cote-part de 2%. Pour la municipalité, on parle d'une hausse de 3% au niveau de la cote-part, ce qui veut dire 7 000 quelques dollars de hausse par année pour la prochaine année. Fait que ce sont les éléments les plus majeurs au niveau de la MRC. Là, il y a eu beaucoup d'éléments pour réentériner avec les nouveaux conseils, avec le nouveau. Il y a eu la nomination du préfet qui aurait été réélu, M. Pierre Tétrault, pour un autre mandat de 2 ans, et l'élection de la vice-préfet Linda Tétrault, qui a été élue pour la première fois pour un autre mandat de 2 ans, bien, pour un mandat de 2 ans tout court. Ce sont les éléments d'info au niveau de la MRC. Oui. Bien, effectivement, effectivement qu'on pourrait en parler. La MRC est en train d'évaluer, puis ce qu'on a compris, c'est que la MRC, on va devoir voter dans les prochaines séances sur la taxe sur l'immatriculation. Je vous explique, le gouvernement du Québec permet aux MRC d'aller apposer une taxe sur l'immatriculation servant à pouvoir investir dans notre transport collectif. Ici, le transport collectif, c'est Transappel, qui fait à la fois du transport adapté, mais aussi du transport collectif. Donc, la MRC va devoir se questionner à savoir s'il accepte d'adjoindre une taxe sur l'immatriculation pour servir à financer le transport collectif de la MRC. Fait qu'on va être là-dessus sur les prochains, là, ça va être les prochaines discussions qui devront avoir lieu probablement quelque part en janvier, là, potentiellement, sur cette question-là. Advenant le cause que ça serait voté par la MRC, ça serait quelque chose qui serait effectif probablement plus au niveau de 2027, mais il y a toutes des parties de la loi à faire sur cette question-là. Oui, Michel, tu peux peut-être apporter quelque chose?
Oui, c'est primordial qu'on ait sous. Autrement, on ne vivra plus.
Oui, c'est ça.
Ça ne marchera pas, le transport adapté.
C'est ça.
Mais c'est essentiel qu'on se donne ce droit-là. Si on ne fait pas, si on n'embarque pas avec ça aujourd'hui, on ne pourra plus jamais le faire après.
C'est ça. Parfait. Fait qu'il y a des travaux qui vont avoir lieu là-dessus. C'est sûr que nous autres, ils nous ont été mis au fait de tous les dossiers, puis vous comprendrez qu'on prend le temps de les analyser comme nouvel élu pour certains, parce qu'au sein de la MRC, c'est 18 maires, 18 municipalités. Dans ces 18-là, 9 personnes sont des nouveaux élus qui arrivent au sein de la table. Il y en avait là-dedans qui avaient des gens qui étaient un peu comme moi, maire suppléant ou pro-maire ou peu importe comment tu les appelles. Fait qu'il y avait quand même une certaine connaissance, si on veut, de la MRC, mais ça reste que pour beaucoup, c'est un tout autre mandat en plus d'être maire. Fait qu'il faut qu'ils apprennent à maîtriser les dossiers avant d'aller sur ces éléments-là. Ça va sur cette structure-là. Sur les correspondances 7.1, Jacinthe?
C'est vous adopter le bordereau de correspondance du 31 octobre au 20 novembre 2025.
Parfait.
Ça me prend.
Claude et Cheryl, merci. Désolé, on est reparti. 8.1, calendrier des séances ordinaires 2026. Claude.
Oui. L'article 148 du Code municipal nous oblige évidemment à tenir un calendrier des séances du Conseil. Donc, traditionnellement, on sait tous que les séances du Conseil sont les lundis, le premier lundi de chaque mois. En 2006, il va y avoir deux exceptions. Mardi le 7 avril, ça va être un mardi plutôt qu'un lundi, et mardi le 8 septembre. Et ces dates-là sont imposées souvent à cause des périodes de l'Italie. Donc, je fais la proposition d'adoption du calendrier.
Jardin qui appuie. Peut-être votre fait, un petit fait à porter. On parle tout le temps du premier lundi, sauf le lundi le 10 août, puisque c'est les congés des vacances de la construction.
Oui.
Fait que c'est peut-être le seul petit point. Ouais, on va prendre les questions dans la période de questions à la toute fin. Oui.
Il y a dit 2026, 2026.
2026, oui.
Merci de la précision, il n'y a pas de problème. Le calendrier va être sur le site web, puis il va être partagé aussi par...
Sur le calendrier des matières résiduelles qui vont passer.
Ah, sur le calendrier des matières résiduelles qui va être partagé aussi, effectivement.
Oui,
puis il va être aussi là, certainement là, disponible, comme on disait, sur le site web. Puis pour ceux qui ont l'envoi courriel de l'ordre du jour, ben, il va faire partie de cet élément-là aussi. Merci, Claude. Au niveau du 8.2, les licences CIGEM, Cheryl?
Oui, le conseil a pris connaissance de la facture pour la licence CIGEM quant aux logiciels municipaux et contrats ordinaires. Le conseil autorise le paiement de la facture au montant de 8 728 $, excluant les taxes pour la licence et contrats ordinaires pour l'année 2026. Alors, cette dépense soit prévue dans le budget 2026. J'en fais la bonne.
Super. Merci, Cheryl, appuyé de Claude. Donc, 8.3, service de transport adapté, Transappel. Michel?
Considérant que le Conseil a pris connaissance de la correspondance du 11 novembre 2025 de Transappel, considérant une entente annuelle de service de transport adapté avec l'organisme Transappel Inc., la conséquence propose que la municipalité de Saint-François... le tarif pour un voyagement local, c'est de 4 $. Puis à Sherbrooke, c'est de 9 $. Puis en considérant par personne le montant de 7,50 4 cents par personne, ça équivaut à la contribution de la municipalité de 19 611 $.
Merci, Michel. Appuyé de Rénal, merci. J'en profiterai peut-être juste pour faire une petite mention sur cet élément-là là, pour vous dire que je vous parlais tantôt que la MRC est en train d'étudier la taxe sur les matriculations. Je vais vous dire aussi que tout ce qui était le transport adapté, il était sous la charge de la MRC, mais le transport collectif, il était sous la charge de Windsor. C'était Windsor qui était l'organisme mandataire. La MRC, par sa résolution, demande à devenir l'organisme mandataire. Ils n'ont pas le choix pour les subventions, les éléments et tous ces systèmes-là. C'est pour ça que la MRC demande à être organisme reconnu au niveau de ça. Là. Fait que, tu sais, c'était pas, c'est pas qui enlève le pouvoir à la ville de Windsor, tout au contraire. Peut-être pour vous donner une idée, c'est qu'avant la contribution, au niveau de la municipalité, elle était de 6,98 par personne. Maintenant, elle est à 7,54. Fait qu'on parle quand même là, d'une hausse de 56 sous. Fait que c'est ça, là, c'est l'élément qu'on avait sur cette question-là. Ensuite, 8.4, c'est pour un emprunt par billet au montant de 959 400 qui va être réalisé le 15 janvier 2026. L'objectif de ça, c'était d'aller capter deux règlements d'emprunt, dont le premier était au montant de 863 500 et l'autre de 95 900. Puis, de pouvoir le payer là, jusqu'en 2031, qui va être à renouveler en 2031, c'est 206 700 sur le total de ces éléments-là. Est-ce que vous aviez des éléments à ajouter? Ça allait. Parfait.
Les intérêts payables semi-annuellement.
Oui, c'est ça. Parfait. Un proposeur, un appuyeur. Jordan et Michel, merci. 8.5, activité de fonctionnement à des fins fiscales au 30 novembre 2025, Jacinthe. Oui.
Donc, le total des revenus est de 4 356 424 $ et 66 sous pour un budget de 4 969 742 $. Le total des charges est de 3 933 945 $ et 41 sous pour un budget de 4 694 242. Les immobilisations sont au montant de 745 128 $ et 29 sous, comparativement à un budget de 180 500. Et on a un déficit de fonctionnement des fins fiscales de 322 649 $ et 4 sous. On dit bien, c'est des fins fiscales, c'est en raison des immobilisations. Là.
C'est ça.
Exactement. Entre autres, les travaux qui ont lieu pour le remplacement des ponceaux.
C'est ça. Fait qu'en réalité, là, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que la municipalité a payé certaines dépenses qui vont être remboursées par la suite, ce qui amène au niveau financier un déficit, mais c'est pas un réel déficit. Nos états financiers présentent plutôt un surplus en date, si tout va bien sur cette année-ci. Ensuite, dans le sécurité publique, il n'avait pas de dossier. Dans le 10.1... Hein? Parfait. Dans le 10.1, le relatif à la circulation des motoneiges sur certains chemins municipaux. C'était-tu toi, Claude, qui faisais toutes les 10? Non, pas celle-là. Hein? Parfait.
Vas-y, donc, Jasmine. Vous rappelez qu'à la dernière séance du conseil, vous aviez donné un avis de motion pour adopter un projet de règlement concernant la circulation des motoneiges sur le réseau municipal. Donc, je vous informe qu'entre le premier projet de règlement et le deuxième projet de règlement qui vous est présenté ce soir, il y a une petite modification. On retire à l'article 4, ceux qui ont les feuilles, à l'article 4, on enlève rang 6 sub, approximativement 100 mètres à partir du lot 4 099 203 jusqu'au lot 4 100 663. Donc, ils vont vraiment traverser en ligne droite, ils n'auront plus besoin de circuler sur cette portion-là de 100 mètres dans le rang 6.
Parfait, ça prend Claude et Cheryl, merci. 10.2, programme d'amélioration du réseau routier local 2025. Claude?
Suite à la réception de la subvention député, donc provincial, cherchez le mot, au montant de 45 000 $ la municipalité a décidé de faire les fossés cette année pour un montant équivalent. Donc, le contrat a été donné à l'entreprise Rouleau, si je me souviens bien, et pour un montant total de 45 144 et 63 qui ont été faits là, en termes de ces travaux-là pour aider là, justement l'écoulement de l'eau, puis nettoyer les fossés, tout ça. Donc, j'en fais la proposition.
appuyé de Cheryl. Je rajouterai peut-être juste une petite, un petit complément pour vous dire que les travaux étaient prévus pour être complétés 100% cette année. La première neige est arrivée plus vite que prévu, mais l'entrepreneur a accepté de continuer les travaux l'année prochaine au même taux, même taux et tout ça. Il fait qu'il va ramener ces éléments-là là, sur cette portion-là. Fait que les travaux sont quand même budgétés là, au niveau du député et tout ça, mais quand même, on va finaliser les travaux sur la prochaine partie. 10.3, l'adoption de la politique entretien hivernal révisé. Claude.
Oui, on a modifié notre politique d'entretien hivernal en ajoutant certains points. Entre autres, au niveau du projet pilote concernant le nettoyage des trottoirs, cet élément-là ne faisait pas partie de la politique. On ne nettoyait pas à l'époque les trottoirs. Maintenant, ça va faire partie là, suite à l'adoption du projet pilote. Ce que ça a comme conséquence aussi, il pourrait y avoir de la neige envoyée sur des terrains privés. Donc, c'est sûr que c'est légal de la part de la municipalité de faire ça, d'envoyer de la neige sur les terrains privés, si on ne peut pas en disposer là, autrement. Donc, en plus, le réseau, quand même, la politique dans l'année hivernale, c'est 150 km de route qu'il faut nettoyer. Donc, la politique englobe évidemment l'ensemble de toutes les opérations liées au déblaiement de la neige en hiver, que ce soit les routes, les rangs et tout ça, même au niveau du périmètre urbain. Je tiens à rappeler aussi que dans la politique, on demande aux citoyens de ne pas envoyer de neige dans les fossés. Donc, ça aussi, là, ça peut causer des problèmes, surtout au printemps, lors de la fonte des neiges. Donc, je propose l'adoption de cette résolution qui modifie la politique d'entretien hivernal.
Parfait. Appuyé de Renan. Cette politique-là, elle est disponible aussi sur le site web.
Ouais, à partir de demain.
À partir de demain. Ben là, j'aurais donné quelques jours, mais si tu dis demain, c'est gentil et poli. Donc, la politique, elle est disponible quand même là, pour consultation sur le site web. Ensuite, le calendrier 2026 des différentes collègues. Claude.
Oui. Donc, comme à chaque année, on va publier là, sur le site Internet et distribuer dans toutes les boîtes postales là, du village l'ensemble là, du calendrier des collectes qui comprend le recyclage, le compost, les déchets, ainsi que aussi les gros revenus, je pense qu'il va y avoir. Non, ils
sont pas les écocentres, les séances conseils.
C'est ça, les séances conseils.
Les abris tempo, ils sont ça.
Voilà. Donc, j'en fais la proposition.
Appuyé de Cheryl. Merci, Claude. Le 11.2, PGAO, caractérisation des risques. Claude.
J'ai l'ouvrage en moi. On a fait appel à une compagnie qui s'appelle Maxon pour établir notre PGAO, qui est le programme de gestion des eaux au niveau des risques, pour réussir à évaluer dans nos infrastructures des eaux usées, la problématique qu'on pourrait rencontrer, le genre de bris qui pourrait arriver au niveau de l'usure des infrastructures et tout ça, pour s'assurer qu'on est capable de répondre vraiment là, aux besoins de la population, puis d'être capable de s'assurer que nos infrastructures sont en santé. Donc, suite au rapport que la compagnie Maxum nous a fait, on a décidé d'adopter cette politique-là là, de gestion des risques en fonction là, justement des obligations aussi qu'on a envers la population de s'assurer qu'on a des services, des infrastructures là, qui répondent aux besoins. Donc, j'en fais la proposition.
Merci, Claude. Appuyé de Michel. Merci, Michel. 12.1, 12.1. On va te laisser un peu tranquille, Claude.
Merci.
De ta demande d'autorisation à la CPTAQ, aliénation, utilisation autre qu'agricole, le lot 4 099 712, c'est une demande qui a été étudiée par le CCU, qui a été recommandée aussi par le CCU. Concernant le fait d'un terrain qui est en ce moment un terrain de gravière où le propriétaire veut départir une petite section de son terrain pour pouvoir le retourner vers le milieu agricole et pouvoir le céder à l'autre propriétaire qui, lui, est un propriétaire agricole. Donc, pour pouvoir le faire, il doit passer par une demande à la CPTAQ. Nous, ça respecte l'ensemble de la réglementation. Ce n'est pas quelque chose qui est problématique. Fait que normalement, c'est pour cette raison-là que le CCU rend une décision en faveur et que nous, on appuie cette demande-là, qui après ça, la CPTAQ aura à elle étudier le dossier puis à rendre une décision dans cet élément-là. Michel propose appuyer de Claude. Merci, Claude. Dans le 12.2, au niveau de la demande d'usage conditionnel pour l'usage chalet rue Gaston. La rue Gaston, c'est une rue privée.
Est en construction.
Est en construction, OK, oui. Parfait. Une rue en construction privée qui serait sur Laurent 6, dans le secteur-là, et le propriétaire demandait à pouvoir mettre, des chalets dans cette zone-là. On sait que le projet, il est contigu à une zone en ce moment d'habitation, de résidence. Fait que le CCU n'avait pas recommandé cet élément-là et le conseil non plus ne recommandait pas cet élément-là. On doit poser plus de questions au promoteur, on doit discuter avec lui des solutions, des éléments. Fait qu'on retournait notre inspecteur, discuter avec le promoteur pour aller chercher un peu plus d'informations dans ce dossier-là. On doit quand même en faire une résolution comme quoi on n'appuie pas cette demande-là pour qu'après ça, il puisse se faire des travaux dans cet élément-là. Ça me prend un proposeur, un appuyeur, Jordan, appuyé de Cheryl. Merci, Cheryl. 12.3, le schéma d'aménagement et de développement de la MRC thématique environnement. Ce que je me permettrai peut-être de dire là, rapidement avant de passer la parole à Jacinthe et à Jordan sur cet élément-là, c'est que la MRC avait à refaire son schéma d'aménagement. Normalement, un schéma d'aménagement, c'est une dizaine d'années, 10-15 ans à peu près, normalement. Le schéma d'aménagement, c'est sur lequel on va se reposer au niveau de l'inspection pour pouvoir la délivrance des permis, tous les éléments qu'il peut y avoir, tous les liens au niveau de toute cette structure-là pour le développement des municipalités. La MRC avait envoyé, a adopté en juin son schéma d'aménagement et a envoyé le 10 octobre à la municipalité ou aux municipalités de la MRC leur demande pour pouvoir fournir dans 120 jours des commentaires sur ça. Je tiens à dire qu'on a une équipe de feu à Saint-François. Les gens qui travaillent ce dossier-là, ce sont de véritables experts. J'en parle avec mes collègues, souvent des nouveaux élus qui arrivent, qui connaissent peu le chose, puis dont leurs équipes non plus ne comprennent pas ça. Et nous, nos équipes font un travail vraiment hors pair de comprendre le nouveau schéma. Ça veut dire quoi? Ça va être quoi les façons de faire? Ça va être quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour le faire, la MRC a présenté 4 ateliers. Au début au DG, puis aux équipes, puis après ça, à partir de l'atelier 2, aux élus aussi. Fait qu'on on vient de terminer l'atelier 2 de 4, il en reste donc 2 autres, mais à chaque fois, nous, on va entériner une résolution sur les ateliers qu'on vient de faire avec les commentaires qu'on va vouloir adresser à la MRC. Vous comprendrez que je ne vais pas ou je ne vais demander à personne de vous en faire une lecture complète et de vous expliquer 100% ce que ça veut dire. On sortirait d'ici très, très tard. Mais je vous assure, par exemple, qu'on a l'équipe pour suivre ça puis qu'on va s'assurer que ça répond le plus possible à notre municipalité puis à nos besoins dans notre municipalité. Jacinthe, je te laisse la parole.
Bien, en fait, peut-être ajouter, Monsieur le maire, que le schéma, ben, c'est l'outil le plus important là, d'une MRC parce que c'est ce qui planifie le développement d'un territoire. Ça permet entre autres d'établir un consensus parmi les municipalités locales en ce qui concerne les enjeux Puis, ça permet aussi d'élaborer un ensemble de lignes directrices en matière d'aménagement du territoire que devront respecter les municipalités locales en adoptant des plans et des règlements d'urbanisme conformes. Parce qu'une fois que le schéma est adopté, bien, toutes les municipalités de la MRC vont devoir adopter un plan d'urbanisme. Puis, c'est ça qui va se traduire dans toutes nos réglementations et les différentes zones. Le schéma d'aménagement et de développement est aussi, entre autres, un outil de connaissance facilement accessible par les élus et les citoyens qui informe sur les problèmes particuliers et les principales caractéristiques socio-économiques et physiques d'un territoire. C'est aussi un outil de concertation qui reflète les discussions et les ententes entre les municipalités, la MRC et, le cas échéant, le gouvernement. Parce que la belle carte qu'on a, la carte de zonage que vous pouvez retrouver dans le bureau de la salle de conférence ou sur le site web, bien, c'est la MRC qui l'élabore en fonction des grandes affectations du sol. Donc, une fois que la municipalité a adopté ça, bien, nous, on l'applique. Bref, après, comme le disait M. le maire, c'est parce que le schéma a été adopté le 18 juin 2025 que le 10 octobre, en pleine période électorale au Québec, ils nous ont demandé d'envoyer des commentaires, que les conseils municipaux sont à l'œuvre officiellement depuis la séance de novembre 2025. Donc, ça laisse peu de temps pour faire des commentaires très complète. Donc, cette première résolution-là vise à dire à la MRC que oui, on prend acte, on veut vous faire des commentaires, mais on va commencer par vous faire des commentaires préliminaires, puis ça se peut qu'il y en ait d'autres qui se rajoutent. Puis on leur demande aussi que la MRC prolonge son délai de 120 jours pour permettre qu'on puisse vraiment commenter le plus possible. Donc, Jordan, je pense que tu voulais mettre des exemples.
Oui. Ce qu'on a fait comme premier travail, donc on parle vraiment de la thématique environnement. Le genre de choses qui nous a été présentées et qu'on devait travailler, exemple, les exigences en matière de stationnement. Ici à la ville, on a une longueur maximale de 5,5 mètres, une largeur maximale de 2,5 mètres. Mais exemple, nous, on a venu rajouter qu'on voulait avoir des stationnements d'une maximum de 2,7 mètres pour compenser, exemple, les voitures électriques. Quand les voitures sont branchées, ça, on a une largeur temporaire. Ensuite de ça, on a aussi travaillé sur, exemple, les toitures plats. Donc, il nous était présenté d'avoir, dans le fond, lorsqu'on change des toitures plats, d'avoir des toits végétales avec des matériaux de couleur blanchâtre, ce genre de choses-là. Nous, on est venu proposer de dire que donc, tous les bâtiments avec une toiture plate devraient aller rencontrer les exigences d'une toiture plus verte, donc exemple, un toit blanc. Aussi, tout ce qui est l'abattage d'arbres. Donc, exemple, présentement, vous pourriez avoir le droit d'abattre un arbre, mais avec le nouveau schéma d'aménagement, on vient vraiment rajouter que l'abattage d'un seul arbre, on doit avoir une autorisation municipale sous certaines conditions très, très précises. Exemple, l'arbre est mort, l'arbre donne des problèmes structurels à la maison, par exemple des racines qui rentreraient dans les renvois d'eau, ces affaires-là. Donc, ça venait vraiment augmenter la charge de travail de l'inspecteur. Aussi, un autre exemple, l'abattage d'arbres dans le cadre d'un projet. Bon, on pourrait repenser au développement d'un terrain, prendre des mesures et tout. Donc, quelqu'un qui viendrait qui dirait, écoutez, pour avoir passé la machinerie, pour prendre des mesures, pour faire des plans, on doit abattre certains arbres. Dans le cas du chemin d'aménagement, on parle qu'aucun permis d'abattage d'arbres ne peut être réalisé tant et aussi longtemps que le projet n'est pas accepté par la ville. Donc, ce genre de choses-là. On pourrait en parler très longtemps, mais on parle aussi des berges, donc l'aménagement des berges, une certaine distance. Je vois rapidement, là, mais on parle aussi, dans le fond, de tout ce qui est le passage faunique. Donc, aménager certains endroits qui étaient aménagés pour, dans le fond, qu'on sait qu'il y aurait certaines espèces animales qui pourraient passer à travers la route, essayer d'aménager des endroits où on va pouvoir favoriser donc le transfert d'une zone A à zone B entre deux routes. C'est le genre de choses qui a été proposé, qu'on a travaillé. Puis dans le fond, c'est le premier des thèmes, de trois thèmes successifs. C'était le premier là, qu'on a travaillé depuis le dernier conseil municipal.
Je me permettrai peut-être de rajouter là, certains des éléments, entre autres cet élément-là, quand on parle de passage faunique, Pour ceux qui sont peut-être un petit peu plus familiers, on va parler des fois de passages sous terre, mettons, pour les tortues. En exemple, parce qu'on sait qu'ici, à l'entrée du village, il y a souvent, durant le temps de la ponte, des tortues qui vont passer sur la 249. Lorsqu'on a posé la question à la MRC pour de savoir est-ce que les MTQ vont faire des passages fourniques, ils nous ont dit non, ça ne s'appliquera pas pour eux, c'est surtout pour nous autres, la MRC, donc les territoires municipaux. Fait que, c'est des éléments comme ça. Ce qu'on comprend rapidement, là, dans le puis ce ne sont que les premières ébauches du schéma, mais si on appliquerait le schéma tel quel, je crois que s'il y en a des gens qui ont des capacités d'être inspecteurs, vous serez certainement sollicités. On va sûrement être rendu à 8-9 inspecteurs à la municipalité. Fait qu'on ne sait pas qui va payer pour ça. On espère que ce ne sera pas nous autres, mais ça va nous causer des sérieux problèmes. Fait que, comme je vous dis, je suis extrêmement fier des travaux qui sont faits par les équipes, autant les élus qui y participent, que l'équipe, parce qu'il y a beaucoup de travail là-dedans, puis on veut s'assurer de le faire pour la communauté, puis s'assurer que les affaires vont être possibles après ça à appliquer, puis ça ne veut pas dire des explosions de coûts pour des mettons, là, la part municipale ou bien pour toutes vos taxes foncières, puis ainsi de suite. Merci, Jardin et Jacinthe, sur ce point-là. Ça va prendre une personne. J'imagine, Jordan, tu en fais la proposition de cet élément-là. Rénal, appuie. Merci.
On n'appuie pas juste, on appuie ce qui est fait.
On appuie les ouais, ben, on n'appuie pas le schéma. En réalité, ce qu'on est venu faire ici, c'est qu'on est venu mentionner tous les éléments qui nous questionnent, à laquelle on est plus ou moins d'accord. On vient demander à la MRC aussi de revoir son délai de 120 jours pour commenter. Puis on vient envoyer aussi une liste de points qui nous préoccupent. Fait que c'est un peu ce qu'on vient faire. Fait que quand on adopte, là, merci de la précision, c'est qu'on n'adopte pas, on ne se montre pas en faveur du schéma d'aménagement. Au contraire, on dit voici tous les problèmes que dans le schéma d'aménagement. Puis ça va suivre son cours après.
Le schéma d'aménagement, oui, est complètement farfelu par rapport à le MRC de campagne. Il est fait pour les villes. Et ici, là, ça nous nuit terrible. On ne peut rien faire. Là,
merci Michel. Donc, 13.1, avis de motion, dépôt et présentation du projet de règlement 2025-333 décrétant les tarifs de location. Ça prend quelqu'un pour faire l'avis de motion? Jordan. Ensuite, on va pouvoir faire la politique qui non, vient
faut
de ça.
Le projet aussi.
Ah, il faut présenter le projet. Ben oui, effectivement, tu as raison. En réalité, peut-être pour votre information, c'est qu'on a plusieurs projets de règlement. On a plusieurs règlements qui vont aller chercher sur les tarifs qu'on a un peu partout au niveau de les locations, que ce soit le centre communautaire, le terrain de balle, certains des systèmes comme ça. Ce qu'on veut en faire ici, c'est un seul règlement qui va venir couvrir l'ensemble de nos réglementations au niveau des tarifs de location. Ça va sur cette présentation-là. Parce que je pensais qu'on l'adoptait automatique, mais c'était juste un avis de motion. 13.2, l'adoption de la politique sur la location du centre communautaire révisé. Tu veux-tu l'expliquer, Jacinthe?
Oui, mais en mai 2024, la municipalité de Saint-François-Xavier de Brompton s'était dotée d'une politique sur la location du centre communautaire. Donc, ça permet aux gens, aux organismes, aux but non lucratif qui veulent avoir accès à la salle à un tarif résident ou à une location gratuite, mais de ne pas attendre la prochaine séance du conseil avant d'avoir une réponse. Donc, là, il y aurait lieu de modifier cette politique afin d'en permettre une utilisation équitable par l'ensemble des citoyens, organismes et entreprises durant la période des fêtes, soit les 24, 25, 26 décembre, de même que les 31 décembre et 1er janvier et 2 janvier. Donc, le conseil, dans le fond, veut modifier cette politique-là pour ajouter que, dans un souci d'équité envers les citoyens, les organismes, les entreprises, etc., que ces réservations-là seront prises à compter du premier jour ouvrable de l'hôtel de ville en janvier, selon le mode premier arrivé, premier réservé, incluant le paiement minimal de dépôt de réservation ou ayant réglé la totalité du coût de la location. Puis évidemment, cette politique va être diffusée sur le site web de la municipalité une fois qu'elle sera adoptée.
Je pense que ça prend un proposeur, un appuyeur. Rénal appuyé de Cheryl. Peut-être pour votre information sur cette politique-là, c'est qu'il y avait souvent des gens qui réservaient très longtemps d'avance. Puis là, après ça, ça n'était pas disponible pour tous et chacun. Fait que là, on voulait trouver une façon d'être d'être juste envers tout le monde. Fait que ça soit affiché, c'est quand que la réservation se prend, c'est quand, c'est tous ces éléments-là, de façon à pouvoir l'offrir à tout le monde de façon juste et égale le plus possible pour la réservation des salles dans la période des fêtes. Au niveau du 13.3, bière et saucisse, Cheryl.
Oui, la municipalité de Saint-François-Xavier a fait un événement de bière et saucisse du maire pour une soirée de financement dans le but de remettre des profits pour deux causes. L'événement a généré un profit de 4 225 $, alors ce qui totalise pour chacun 2 110 $25. Et c'est versé à l'Association de la sclérose en plaques ainsi qu'à une athlète, Tom Beaupoise, qui rayonne sur la scène nationale et internationale en volleyball de plage, soit Laura Côté-Connet. J'en fais la proposition.
Merci, Cheryl. L'appui de Claude. Et là, peut-être pour votre information, on parle de la bière et saucisse du maire. C'était le maire Adam Rousseau à ce moment-là. Fait que donc, c'était le bière et saucisse du maire. Et il y aura donc remise des sommes bientôt avec Adam aussi là, pour les photos dans cet élément-là. Fait que oui, je voudrais bien prendre le crédit, mais je ne ferai pas comme certains collègues politiques et dire que c'est grâce à moi que cet argent-là a été... 13.4, permanence technicienne aux loisirs et au développement, Chortet.
Oui, donc ben, je suis content de, au fond, de pouvoir lire ça étant la personne responsable des loisirs. Donc, en résolution, je peux tout dire, excusez, là, c'est manque de lire la résolution, normalement.
Ben, en fait,
excusez, vraiment l'expérience. <C'est correct. rire> Mais ça pour dire que. Donc, le conseil il est proposé il est proposé par moi de confirmer Mme Nancy Poudry au poste de technicienne en loisirs et au développement donc à la Ville. Elle a fini sa période d'évaluation de 1050 heures prévue à la convention collective et il est recommandé par le comité des relations de travail patronales.
Je vais prendre Michel sur cet élément-là. J'ai vu Michel avant. Désolé, Claude. Ça va sur le 13.4. 13.5, la reddition de compte pour Sécurisons de belle façon et ensuite jouons. Il s'agit d'un projet qui provenait du programme de soutien au projet structurant de la MRC du Val-Saint-François, à laquelle la municipalité a reçu une aide financière, une énorme aide financière de 980 $43 pour un projet total de 1993 $03. Donc, la part de la municipalité était de 1 012 $60. On est obligé d'avoir un pourcentage, fait que c'est pour ça aussi cet élément-là. On ne pouvait pas aller chercher, mettons, 100% en exemple. La municipalité devait mettre une part. Donc, c'est de pouvoir déposer maintenant la reddition de compte à laquelle on dit à la MRC, voici ce qui a été fait, voici là, toutes les factures, tous ces éléments-là, pour démontrer la subvention de 980 et 43 sous. Ça me prend un proposeur, un appuyeur, Michel, appuyé de Cheryl. Merci. 13.6, Jordan.
Oui, donc, concernant la fabrication et l'entretien de la patinoire, nous avons Mathieu Grenier qui s'est monté intéressé à fabriquer la patinoire et à l'entretenir les fins de semaine. Donc, il propose aussi, bon, ça inclut le dépannage en semaine. Donc, pour un montant total de 5 000 $ pour la saison hivernale 2025-2026, payable en trois tranches, soit en janvier, février et mars 2026.
En fait, la proposition, Claude qui appuie, je ne vais pas je vais te prendre cette fois-ci. Donc, peut-être pour votre information, Mathieu était celui qui a fait la patinoire dans les deux dernières années. Mathieu avait fait au début 100% de la patinoire. L'année passée, a fait une formule un peu plus 75-25 de la patinoire ou presque.
50-50.
50-50, puis tranquillement, pas vite, Mathieu se retire pour laisser la place à nos employés municipaux. C'était ça l'objectif qu'on avait derrière ça. Mais on évalue là, toujours. Probablement qu'on n'aura pas le choix d'avoir quand même une portion qui va être qui va être couvert comme ça par quelqu'un extérieur aux travaux publics, parce qu'on sait que quand il neige, bien, on veut que nos gens soient sur les routes le plus rapidement possible. Fait que peut-être que c'est là que l'apport que le citoyen peut faire, ou pas le bénévole parce qu'il est rémunéré, mais que la personne peut venir couvrir au niveau de cet élément-là. Ensuite, le point 14, compte soumis pour approbation.
Donc, le total des comptes à payer en ce 1er décembre est de 154 280 $ et 87 sous.
Un proposeur, un appuyeur, Michel et Cheryl. Ah, Claude, j'ai failli te prendre, mais tout juste à la dernière seconde. Désolé, Claude. Il n'y a pas d'affaires nouvelles. Il va y avoir une deuxième période de questions. Oui, M. Bourque.
J'ai deux questions.
Oui.
L'affaire sur les affaires des plaques pour une création, est-ce oui. que la municipalité peut se décider de ça au Canada?
Si la MRC décide d'aller sur le projet, la municipalité va être dans l'obligation de le faire. En réalité, c'est pas la municipalité qui va en décider, c'est la MRC. Fait que le pouvoir de la municipalité n'est pas d'être ou de ne pas être. Automatiquement, on va être obligé d'embarquer si la MRC vote pour. Fait qu'il y a des...
Il peut pas avoir une opposition à ça présentée à la MRC?
Si on n'embarque pas là-dedans, on va perdre le transport.
Dans quel pourcentage présentement la municipalité donne à France Appel?
C'est 30 $ à peu près. Ah oui, c'est ça. Mais c'est en réalité, mettons, là, la part de la municipalité là, en ce moment par année, là, c'est à peu près 19 000 qu'on donne pour le transport adapté puis le transport collectif. Et ce qui est discuté à l'heure actuelle sur la taxe sur les matriculations, ce serait un montant de 30 $ là, pour qui serait mis directement sur le permis, sur les taxes d'immatriculation.
Les autos, combien d'autos par Saint-François?
C'est une donnée qui est très difficile à répondre. Je sais que, comme je vous dis, là, vous allez comprendre mon mea culpa sur cet élément-là, mais nous, on arrive sur le dossier. La MRC a déjà commencé des travaux, il y avait déjà eu des présentations qui avaient été faites et tout ça, fait qu'on doit s'assurer de bien comprendre le dossier. On sait qu'entre autres, des municipalités qui n'étaient pas à date dans le transport, je pense que la seule qui ne l'était pas, c'était Bon Secours, qui là serait obligée d'embarquer dans le transport. Fait que là, il y a tout ce débat-là qui va devoir se faire, qui va devoir s'amener. On sait que cette taxe-là, elle existe dans bien des endroits, entre autres Sherbrooke et tous les grands centres où ils ont des autobus et du système comme ça. Fait que c'est ça. C'est la question qui va devoir être validée. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va appuyer ou non? Si je pense qu'on doit prendre le temps de regarder c'est quoi les éléments, les pour et les contre dans ces suggestions-là. Comme a dit Michel, l'élément en ce moment, gros avantage de Transappel, c'est pour toutes les gens qui n'ont pas accès justement à un service de transport. Il y a des points de collecte. La différence, pour vous expliquer peut-être un peu au niveau du transport adapté versus le transport collectif, le transport adapté va aller chercher directement chez toi. Puis il y a des raisons pour lesquelles pour le faire. Fait que, exemple, quelqu'un qui sera en convalescence, tu pourrais appliquer des éléments comme ça, tu pourrais appliquer, puis ils vont te chercher directement chez toi, puis ils vont t'amener directement où tu as besoin d'aller. Le transport collectif, lui, a la différence, c'est qu'il est couvert dans toutes les municipalités avec ce qu'ils appellent des points de collecte à laquelle tu peux te présenter là, ils viennent te chercher, puis après ça, ils t'amènent sur des points où tu as besoin d'aller, incluant Sherbrooke et ainsi de suite. Fait qu'il y a des utilisateurs qui l'utilisent en ce moment, des gens qui le font, puis là, on va devoir regarder après ça, est-ce que c'est un plus-value ou pas d'aller chercher cet élément-là, puis il y aura un débat qui va être fait avec la MRC, certain.
Si je peux rajouter un point aussi, il ne faut pas oublier que si on en est rendu là, il y a une raison. C'est-à-dire que si on parle d'imposer là, un montant sur les plaques, là, c'est à cause du désengagement aussi du gouvernement provincial vis-à-vis du transport en commun. Il ne faut pas se le cacher. Là. C'est-à-dire que il faut que quelqu'un paye. Que si ce n'est pas le gouvernement parce qu'il n'y a plus d'argent, ça va tomber sur le dos des municipalités et des MRC. Ça, c'est bien certain. Fait que c'est pour ça qu'il va, il va falloir avoir une bonne discussion là-dessus pour savoir là, jusqu'à quel point on est prêt à accepter encore une charge supplémentaire au niveau du citoyen, là, principalement des conducteurs, pour favoriser le transport en commun. Puis on y croit, là, on y croit beaucoup, nous autres en région, là, au transport en commun. Puis c'est d'essayer de convaincre aussi nos élus provinciaux de financer adéquatement aussi le transport en commun. Fait que c'est un peu ça le dilemme. Là,
c'est ça que je veux dire, oui. Parce que les citoyens ne peuvent pas débattre ça, parce que c'est au point de vue de la MRC.
Exact.
C'est même si c'est une municipalité. Ouais. Pourquoi les citoyens
ne
peuvent pas en débattre?
Ben, je vais juste peut-être prendre un point, peut-être cet élément-là, pour vous dire que le citoyen peut toujours en débattre parce que les séances de la MRC sont publiques.
Ouais.
Donc, vous êtes le bienvenu lorsque des séances de la MRC publiques, parce qu'il y a toujours un atelier de travail, mais il y a toujours une séance publique. Fait que les citoyens sont invités à venir, à poser leurs questions, puis à amener leur point de vue à la MRC. Ce qu'il faut savoir, c'est que le transport, c'est une compétence municipale, mais qui est demandée par la MRC en réalité, c'est ça?
Vous avez délégué la compétence de transport à la MRC parce
c'est
que
ça.
Vous n'êtes pas assez de moyens, notamment pour soutenir un programme de
c'est
transport
ça.
Collectif individuellement.
C'est ça, parce qu'en réalité, la seule méthode qu'on pourrait ne pas être avec la MRC, c'est si on avait nous-mêmes un transport qui faisait la même étoffe. Fait que là, d'avoir un transport seul, pour les coûts que ça représenterait pour des municipalités comme Saint-François, en exemple, c'est impossible d'y penser. Fait que souvent, tu vas vers la MRC après ça, dans ces éléments-là, mais après ça, ça vient avec l'autre côté. Par contre, effectivement, comme je mentionnais, il y a toujours le pouvoir, vous avez le pouvoir de vous présenter à la MRC pour pouvoir être entendu sur cette question-là, sur la taxe sur l'immatriculation.
Moi, c'est le schéma d'aménagement.
Oui.
Parliez tantôt d'abattage d'arbres.
Oui.
Ici, en municipalité, présentement, l'abattage d'arbres, à combien d'arbres espère qu'ils paient pour un permis?
5.
C'est 5.
À partir de 5 arbres, ça prend un permis. Puis là, il faut qu'ils payent pour un permis. Fait que c'est 5 arbres. Là, ce qui est proposé dans le schéma, c'est dès qu'il y a un arbre, vous allez devoir démontrer que l'arbre peut être abattu. Fait que donc, qui correspond à tous les critères. Puis là, c'est des exemples de ce qu'on comprend, puis c'est de l'argent, parce que à chaque fois que vous allez faire la demande, bien là, il va falloir que l'inspecteur ait contre-vérifié. Si vous dites que l'arbre est malade, comment qu'on va faire ça, tu sais? Est-ce qu'il va falloir embaucher un expert?
Michel, peux-tu en débattre pour la MRC? Dire que c'est comme c'est là, là, vous me présentez quelque chose, parce que l'autre fois, ma fille, elle doit avoir un cheveu. OK? Ils ont venu un inspecteur, OK? Mais il n'est jamais venu sur le terrain. Il a inquiété de garder le terrain par rapport, OK, de l'ordinateur, mais jamais. Ils ont accordé le permis, mais ils l'ont barré 2 mois avant. Puis quand ils ont revisé le dossier, ils ont accordé le permis. Sans que l'inspecteur vienne se présenter.
C'est ça. Bien, ce que je peux vous dire, c'est que l'inspection, elle est la municipalité. Le représentant au sein de la MRC, c'est moi, normalement, qui siège à la MRC. J'ai fait campagne et j'ai mentionné depuis le début de la campagne à tous les journalistes à qui j'ai parlé ou à tous les citoyens qui m'ont posé la question qu'un de mes premiers chevals de bataille ou un des éléments qui était pour moi le plus important, c'était le schéma d'aménagement. C'est quelque chose à laquelle je trouve aberrant de voir tout ce qui s'en vient. Je comprends qu'il y a une portion de ce que la MRC demande dans le schéma d'aménagement qui proviennent des OGAP, donc les orientations gouvernementales en aménagement du territoire du gouvernement du Québec. Par contre, moi, ce que je trouve, c'est que la MRC s'est montrée très peu agressive dans ce dossier-là pour justement essayer de brasser Québec sur ses demandes. Parce que vous le savez, comme depuis aussi loin que je me souviens, je pense que le gouvernement a toujours fait ça, de pelleter des responsabilités dans la cour des municipalités, mais avec pas d'argent qui vient avec pour le faire. Fait que c'est exactement un peu ça qui est en train de se faire. Puis c'est exactement ça qu'on dit, parce que nous, on dit, comment voulez-vous que demain matin, on aille appliquer ces éléments-là, on aille faire ça, puis vous en êtes probablement l'exemple parfait. Puis tu sais, je connais pas le dossier, puis je veux pas me mêler nécessairement ce dossier-là, mais comment voulez-vous que l'inspecteur soit partout, qu'il fasse tous ces éléments-là? C'est quasiment impossible. Okay. C'est ce qu'on dit que demain matin, si on voudrait le faire, ça prendrait comme 9 inspecteurs à la municipalité juste à Saint-François. Oui, oui, exactement. Exactement. Fait qu'imaginez-vous pour une municipalité comme Saint-François ce que ça veut dire. Fait que c'est des éléments qui n'ont juste pas de bon sens puis qui vont être. Tu sais, je vous donnais l'exemple là, tantôt, là, on parlait de l'arbre-mort. Là. Mais là, c'est quoi? Va-tu falloir que la ville, mettons la municipalité, embauche un arboriculteur qui va venir voir est-ce qu'effectivement l'arbre est à ce point mort-là que vous seriez dans l'obligation de. Tu sais, en tout cas, je vous rassure, moi, j'ai pas envie d'embarquer là-dedans, puis je pense pas que notre appareil municipal non plus, ça n'aura pas de fin, là, à un moment donné. Fait que. Oui, c'est ça. Fait que sachez qu'on suit avec un très, très grand sérieux le chemin d'aménagement de la MRC. Oui.
Oui. J'ai bien compris, c'est pour faire l'analyse de l'état de la superficie, savoir s'il y a des travaux importants à faire d'ici quelques temps.
Exact.
Est-ce que dans l'analyse, ça va aussi tenir compte de l'évaluation de la capacité de traitement du système en vue des constructions futures?
Oui. Non, parce que notre système est déjà adéquat. Et puis, mais on travaille aussi. Ça, ce que ça va nous permettre de faire aussi, c'est avoir une évaluation sur la possibilité de mettre aux normes nos infrastructures en eau. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau des étangs aérés, si à un moment donné, on veut améliorer la capacité de traitement des eaux usées, il y a des choses qui peuvent être mises en place. Sauf que ça coûte très cher, ça prend des subventions, puis il faut préparer notre dossier. Et le PGAO, c'est ce qui nous permet de faire. Il nous permet de dire, identifie dans quelques années, vous allez avoir de la misère peut-être à faire telle chose. Donc, en prévision de difficultés à venir, voici ce qu'on pourrait faire, c'est-à-dire améliorer l'infrastructure elle-même. Par exemple, améliorer la capacité des étangs, puis en prévision, là, justement, du développement futur. Ça pourrait toujours être capable de répondre à la demande. C'est ça, parce que le développement, c'est sûr que on peut pas l'arrêter complètement, là, puis dire on reste de même, puis on ne bouge plus. Donc, on va continuer à se développer, et cette analyse-là nous permet de dire, oui, on peut continuer à se développer, mais il y a certaines infrastructures, qui vont devenir un petit peu plus fragiles. Fait que ça, il va falloir renforcer ça. Et, au niveau des stations de pompage, déjà, on a un projet de modernisation de 2 stations de pompage qui nous causent des problèmes. Fait que ce plan-là nous permet justement d'identifier et de voir venir.
Je rajouterais peut-être dans ces éléments-là là, 2 petites sections, là, puis je vais rajouter une petite section, puis je vais laisser la parole à Passage à Saint sur un point, mais c'est qu'un peu comme a dit Claude, la partie la plus importante, c'est quand on demande des subventions auprès des instances gouvernementales, la première question qu'ils ont toujours, c'est est-ce que vous avez un plan? Est-ce que vous savez c'est où vous allez aller? Tout ça, t'sais, vous dites que c'est ça que vous avez besoin, mais est-ce que c'est vraiment ça votre besoin? Est-ce que c'est vraiment ça vos éléments? Est-ce que c'est ça? Fait que d'aller chercher ça nous permet d'acquérir plus rapidement ou d'avoir des réponses beaucoup plus favorablement au niveau des subventions pour certains points. Puis je pense que vous voulez rajouter un petit quelque chose concernant là, la question que tu posais concernant la capacité en eau du système, là.
Bien, en fait, un PGAO, c'est un portrait de gestion des actifs. Donc, c'est le portrait de notre réseau sanitaire actuellement. Donc, il part de voici Saint-François, qu'est-ce que ça a? Voici ce qui pourrait représenter un risque à court, moyen, long terme. Puis voici les niveaux de service, parce que ça, c'était à votre dernière séance. Voici les niveaux de service pour lesquels on veut s'assurer de répondre. Donc, ça va sur toutes les conséquences qu'on peut avoir sur l'environnement, sur l'humain aussi. Tu sais, par exemple, les fameuses lingettes que les gens continuent de jeter dans les toilettes, bien, tu sais, ça, c'est la conséquence, bien, que ça fait boucher nos pompes. Donc, ça accélère la détérioration de nos systèmes, puis ça augmente les coûts, puis ça a des risques de refoulement à long terme. Fait, tout ça, c'est identifié. Donc, c'est une espèce de grand plan d'action que la municipalité se donne. Puis, comme le dit M. le maire, bien, ça permet d'aller chercher des sommes, par exemple, au programme TEC, et au primo. Donc, quand la municipalité va arriver pour aller en appel d'offres pour pouvoir aller moderniser les postes de pompage 1 et 2, comme l'a expliqué le conseiller M. Paulin, bien, le ministère va dire, ah, bien oui, eux autres, ils l'ont identifié, c'est leur priorité numéro 1 ou 2, je ne me souviens plus exactement. Donc, nous, on peut les financer jusqu'à temps, puis les 2 aides financières devraient être cumulables. Donc, ça va coûter moins cher pour les citoyens. On s'assure de maintenir notre niveau de service le plus adéquat possible.
Ma préoccupation, entre autres, c'est est-ce que le système a la capacité de traiter des eaux en fonction des nouvelles constructions.
Ça a été fait, ça, par une étude de Débimètre qui a été faite lorsqu'on a fait l'attestation d'assainissement municipal au cours du printemps et de l'été. Ça nous disait oui, mais comme on voulait être certain, parce qu'on savait qu'il y avait des soins, qu'il y avait des préoccupations concernant la capacité sanitaire de notre réseau, on est allé faire des tests de Débimètre au poste de pompage 1 puis au poste de pompage 2. Poste de 1, c'est celui là qui est sur la route de 49, proche du garage municipal. Il pousse les eaux usées vers le poste de pompage 2 qui est sur le chemin Robert, coin Dion. Puis c'est lui, après ça, qui traite tout ça, bien, qui envoie ça après ça à l'usine de traitement de nos aux étangs, là, au bout du chemin des étangs maintenant. Là. Fait qu'ils nous ont dit, on l'a confirmé par des tests supplémentaires que oui, on avait cette capacité-là pour accueillir des serres et même d'autres développements dans la municipalité.
D'autres questions, commentaires?
Oui. Oui. Tantôt, j'ai vu que vous engagez quelqu'un pour s'assurer que l'abaissement sera entretenu.
Oui.
Alors, moi, je trouve ça correct. L'abaissement est là, c'est important qu'elle soit utile. Même si moi, je ne patine pas, il y a sûrement des jeunes qui viennent se patiner.
Oui. Oui. Donc, c'est correct. Parfait. Merci.
Oui, puis surtout qu'on a une nouvelle machine dont on s'est équipé qui va aider probablement le déneigement là, pour la patinoire. Fait que,
la patinoire, les trottoirs, puis bien d'autres. Bien, l'autre chose là, qu'on a adopté là, au dernier conseil, là, l'achat là, qu'on a reçu d'ailleurs la semaine passée, puis les photos ont été faites sur cet élément-là.
Puis ça va venir bientôt.
Ça va venir bientôt, l'annonce, c'est tout ça, effectivement. Ça va, pas d'autres questions? Oui.
Patrice Cabello.
Oui.
Tu parlais tantôt du déneigement des trottoirs. Moi, c'est justement là-dessus que je voulais revenir. À partir de quand ça va être effectif? Parce que je suis passée aujourd'hui, puis c'était pas fait encore. Pas de déneiger.
Ce qui est en réalité prévu, c'est un projet pilote cet hiver où on a demandé que les trottoirs soient déneigés dès maintenant, là, dès que ça commence. Le seul élément, c'est que dans la politique, c'est un délai de 48 heures avant de faire le déneigement des trottoirs.
Après
la dernière journée de la tempête. Ouais. Pourquoi il fallait faire cet élément-là, puis c'est pas que nécessairement on va toujours viser un 48 heures, mais c'est qu'au niveau des assurances, on devait être capable d'aller couvrir une période. Il faut que vous compreniez que les gens, ils sont au début dans les déneigeuses. C'est le même personnel qui va faire les trottoirs. Fait qu'on veut au début qu'ils rouvrent les chemins, puis que lorsque les chemins vont être ouverts, que la tempête va être terminée, dès qu'on va être capable, on va envoyer du monde là-dessus. Pourquoi on se met un délai après la tempête? C'est que des fois, si vous en avez vu, c'est arrivé des jours où on a eu plusieurs jours de tempête. Nos équipes ont atteint les nombres d'heures de conduite, ont atteint les nombres d'heures où, ce que là, maintenant, il faut qu'elle dorme. Fait qu'on envoie les gens dormir, puis après ça, on va déneiger. Fait que oui, on se laisse une plage de 48 heures, mais elle pourrait être plus courte, dépendant des besoins puis des états de la situation et tout ça. Puis quand on parle du déneigement, c'est souffler les trottoirs, mais c'est aussi l'application d'abrasifs sur les trottoirs pour justement s'assurer que le trottoir va être en bon état. Au niveau de ça, ça devrait commencer sous peu.
Il y a déjà eu un test qui a été fait sur la rue de l'Église et sur la rue principale là, sur la fin de la semaine passée parce qu'on savait qu'il annonçait de la neige en fin de semaine puis de la pluie. Fait que il y a une première premier circuit qui a été fait, mais là, il y a neigé toute la journée. Donc,
ouais. C'est ça. S'il neige à tous les jours, ben, ça va retarder à la dernière journée parce que la priorité, c'est le chemin. Fait que, ça se peut qu'il neige 5 jours de fil. Fait que, on ne fera pas être en toi. Hein. C'est 5 jours-là. Puis la personne qui arrête de neiger, ben, on s'est dit 48 heures que là, on va être capable de les faire. Ben, on est encore en voyage. C'est la première année qu'on va faire ça. C'est la première année qu'on a la nouvelle machinerie qui est capable de faire la chose comme il faut. Fait que, on ne veut pas promettre rien parce qu'on est en rodage.
C'est ça.
Parce que quand il y en a là, des
trottoirs
de neige, il y a bien ça,
savoir. Tu vas le voir. Si on est capable, on va le voir. C'est juste qu'on ne peut pas promettre qu'il va être tout le temps dans les rues. Là.
En tout cas, au moins, pour le grattage du bord du chemin, je peux vous dire que cette année, je trouve que c'est fait solide.
Bon.
Là, c'est du grattage.
Super. Parfait. Merci. On va en faire mention à nos équipes sur cet élément-là.
C'est parce qu'en grattant large, ça m'a fait
beaucoup
de marche.
Quand
les
chars
courent, c'est une distance
minimum.
Oui, c'est
ça. Je vais bien apprécier
sur un bord sur la
gravité.
On va user, hein?
Parfait. Merci.
Oui, ton droit, c'est l'heure que les gens le prennent. Là, vous faites le congé de cette année.
ça avance tranquillement. On peut espérer qu'éventuellement, ça va être encore.
De mieux en mieux. C'est juste ça, c'est vers quoi on s'en va. Puis c'est pour ça qu'on l'a mis en projet pilote. On va le voir, on va voir vraiment l'impact d'un hiver complet, qu'est-ce que ça donne. Est-ce qu'on est capable de répondre dans des temps qu'on juge acceptables ou non? Puis après ça, on va pouvoir se rasseoir puis voir c'est quoi les éléments qu'il faut mettre en place de façon intelligente et de façon saine pour la population aussi. Là. Fait que si on veut déneiger, on veut être capable d'offrir le service, on ne veut pas non plus avoir 12 personnes de plus. Fait que merci beaucoup sur ce commentaire-là. Ça va?
Oui, merci.
Parfait. Donc, c'est ce qui met fin à la deuxième période de questions. Je vous mentionne que nous allons faire un ajournement, ce qui veut dire qu'on ne lève pas l'Assemblée. L'ajournement est prévu pour le 15 décembre 2025. Le 15 décembre, il y aura des points qui vont être amenés dans l'ajournement et principalement pour pouvoir fermer les comptes, si on veut, le plus proche possible de la fin de l'année. Puis le budget 2026 sera adopté en janvier, sur la séance de janvier, le prévu au niveau de la séance du 12 janvier. Je m'allais dire 10, fait qu'une chance m'a dit ça. On l'aurait adopté un samedi sinon. Donc, ça prend un proposeur pour l'ajournement? Non, hein? Oui? Proposeur pour l'ajournement, Michel et Claude. Je t'ai dit deux fois, c'est pas volontaire, mais... Donc, je vous remercie à tous de votre présence et je vous invite avec plaisir le 15 décembre avec nous. Pour ceux qui ne pourront y être, je me permets de vous dire qu'on est maintenant le 1er décembre officiellement, que je vous souhaite de joyeuses fêtes, puis en espérant se revoir rapidement au début du mois de janvier. Merci, bonne soirée. Là.